Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Né à Nice, Jean-Marc Cotta grandit au pied des montagnes qui l'invitent à rêver. Dès son enfance, les Pyrénées deviennent son terrain de jeu et lui ouvrent l'amour des grands espaces et des voyages. Naturellement, il devient accompagnateur en montagne, trait d'union entre l'homme et la nature. Ses nombreuses expéditions le mènent sur tous les continents, à la découverte des massifs isolés et des peuples qui y vivent. C'est toutefois pour l'Afrique que bat le cœur de Jean-Marc Cotta. Il tombe amoureux du Cap-Vert où il travaille chaque année comme guide. De ses escapades là-bas, il nous rapporte des photographies qu'il livre dans son livre « Cap-Vert, l'archipel hors du temps ». Bonjour Jean-Marc, heureux de te rencontrer.
Oui, bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui en Alsace, à Colmar, au Salon du Tourisme. Et je suis sur le stand de Transboréal, éditeur de voyages, de livres de voyage.
Et qu'est-ce que tu fais sur ce stand ?
Alors en fait, sur ce stand, je présente mes deux livres. L'un sur, pas très lointain, sur la Bretagne, le golfe du Morbihan. Et ensuite, un autre sur le Cap-Vert, qui est sorti il y a 5 ans, qui a reçu le prix du Regard Poétique. Et puis j'en profite pour mettre un petit peu en avant mon travail d'accompagnateur en montagne, mes voyages sur les Pyrénées, et bien sûr le Cap-Vert et l'Afrique.
Quel est ce personnage qui se cache derrière ce regard rempli de douceur ?
Ah, savoir qui on est, c'est compliqué. Je crois que je vais pas le dire tout de suite comme ça à la radio. Mais je m'appelle donc Jean-Marc Cotta. J'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, un petit village merveilleux, Rébénac, 650 habitants. Et je suis un voyageur qui aime à la fois rester à la maison, parcourir ses Pyrénées et surtout découvrir le monde.
Souvent, la montagne, c'est un voyage en soi. Partir, poser un pied devant l'autre, marcher, c'est voyager quelque part. Rien que la profession d'accompagnateur en montagne peut être un voyage. Comment tu perçois ça ?
Ouais, tout à fait. Mon métier, en fait, je suis vraiment le trait d'union entre la nature et les gens que j'amène. Et que ce soit des sorties à la journée ou bien sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois des fois, c'est un voyage d'amener des gens, de se découvrir soi-même, de découvrir la vie en collectivité et de vivre un moment fort en pleine nature.
Oui. Pourquoi tu as choisi de devenir accompagnateur ? Comment s'est née cette idée ? Quel est ton parcours, on va dire, professionnel ?
Je n'ai eu qu'un seul métier, c'est celui-ci. C'est un métier que j'ai choisi depuis mon adolescence. C'est suite à une passion de la montagne, de l'alpinisme, et je voulais en fait vivre en montagne, de la montagne, pour la montagne.
Comment on fait aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile d'être accompagnateur ?
Oui, c'est un diplôme entre guillemets assez facile à obtenir quand on est montagnard, puisqu'il ne s'agit pas de posséder une technique particulière. Nous ne faisons que de la randonnée, de la marche à pied, ou bien de la raquette à neige l'hiver, donc pas d'escalade ou pas de manipulation de cordes. Donc techniquement c'est facile, par contre c'est beaucoup plus compliqué d'en vivre, et j'ai quand même personnellement la chance d'en vivre depuis 17 ans, de ne faire que ça. Et même si c'est un combat quand même quotidien, c'est un métier qui me donne une vie aventureuse, et c'était tout ce que je voulais.
Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au groupe que tu emmènes avec toi dans la montagne, dans la nature ?
Oui, le métier d'accompagnateur est un métier de passeur, de transmetteur. Non, je suis là pour transmettre en fait.
Tu transmets quoi ?
Alors, bien sûr, ma passion de la nature, mais surtout un regard sur la nature et bien sûr sur l'évolution du milieu, sur les problèmes qu'il peut y avoir sur l'environnement, l'écologie. Et donc, je travaille aussi avec des classes, avec des enfants, mais aussi avec des adultes, et j'ai bien sûr un regard quelquefois un peu tranchant sur l'évolution de la société.
Mais c'est bien, on va parler de voyage, du Cap-Vert, mais là tu me tends la perche de l'écologie, de l'environnement, c'est aussi des thématiques très importantes, on peut en parler un petit peu. Quelle est ta vision aujourd'hui de ce qui se passe dans nos sociétés de consommation ?
Oh là là, je crois que je ne vais pas faire que des heureux. je fais partie de la grande famille des décroissants, et je prône en fait une vie beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'alors mon métier d'accompagnateur est un petit peu à contre-courant finalement de la société de consommation, puisque au lieu de partir à toute vitesse, d'aller vite, de tout voir vite et rapidement, je propose une lenteur, je propose de revenir à des choses essentielles, marcher à pied, avoir mal aux muscles, pas souffrir, je vous rassure, mais finalement ressentir les éléments, le froid, le soleil, le vent, la pluie, et de vivre ces moments intensément. Par contre, il peut y avoir un paradoxe par rapport à mes voyages, mais c'est vrai que j'organise des voyages à l'étranger, en Afrique, où nous prenons l'avion pour nous y rendre. Mais en fait, je mets en avant, en Afrique, des rencontres. Mes voyages au Cap-Vert ne sont pas de la randonnée, c'est pas de la randonnée pour voir du paysage. Nous évoluons dans un paysage merveilleux, mais c'est avant tout pour rencontrer les gens. Je parle couramment le Cap-Verdien, pour y avoir vécu. Et voilà, on échange avec les gens, on essaye, nous, d'apporter des choses aux Cap-Verdiens et puis aussi de recevoir leur manière de vivre. Et finalement, d'évoluer, d'avancer dans notre quotidien, à notre retour.
Tu utilises un mot que j'aime beaucoup, le mot décroissance. Qu'est-ce que c'est être décroissant aujourd'hui, selon toi ?
Alors, aucun rapport avec le café, les chocolatines ou les décroissants, ou les croissants, décroissants qu'on prend le matin. La décroissance, c'est pour moi, c'est une philosophie de vie. Où je pense qu'aujourd'hui, nous, peuple dissivilisé, excusez-moi,
développé aussi,
et
dit-on,
excusez-moi à nouveau,
matériellement, c'est peut-être vrai.
Matériellement, je crois que même si nous avons pour certains des revenus moyens ou même des revenus faibles, nous vivons quand même, nous avons la chance de vivre dans une société qui nous permet d'avoir beaucoup de choses matériellement. Et malgré tout, d'être riche. Riche de choses matérielles, mais surtout riche de rencontres humaines, riche de culture. Et je crois qu'il faut que nous arrêtons de continuer à posséder pour posséder, de posséder pour consommer. Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux revenir à l'essentiel, c'est-à-dire être riche de rencontres humaines plutôt que riche de matériel.
Je t'aime, mi amor, et mes libères filles. En el a la vinila, too much. Je t'aime, mi amor, et me divertie. En el a la vinila, too much. Je t'aime, mi amor, et me divertie. En el a la vinila.
Ne t'en vas pas, chérie.
Je t'aime, mi amor, et me divertie. En el a la villa, too much.
Chérie, ne bife. Un t'en fait, si un t'en fait. Non, ta vie vive, c'est me dit confiance.
Le bonheur matériel, donc le bonheur n'est pas matériel, n'est pas forcément extérieur, mais peut-être intérieur. En fait, t'es un peu bouddhiste dans la philosophie, dans la...
Oh, bouddhiste, je ne sais pas. J'irai pas jusque-là. On va dire, quelque part, je suis croyant, mais j'aurais une tendance animiste. Ouais. Mais pour revenir donc sur le bonheur, enfin sur la philosophie, je dis toujours que la vraie richesse, c'est les autres. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est les gens qui m'entourent. Je crois que seul, je ne suis rien, mais que voilà, ce qui est intéressant, c'est la société, c'est les autres, c'est quelle place j'ai par rapport à eux et quelle place les gens ils ont par rapport aux autres, par rapport au système. Et c'est sûr que le fait de faire chauffer sa carte bleue le samedi dans une grande surface ou dans des magasins n'apporte pas le bonheur. Je crois qu'au contraire, c'est se cacher derrière la réalité. Et puis c'est c'est finalement c'est être malheureux, c'est ne pas prendre le temps de discuter avec ses voisins, c'est ne pas prendre le temps de...
Ou avoir une conception erronée de ce qu'est le bonheur. Toi, tu l'as très bien formulé, le bonheur c'est les autres, c'est comme ça que tu l'as dit.
Oui, c'est comme ça que je le conçois. Je retiens une phrase de Romain Gary dans La vie devant soi, c'est que je ne tiens pas tellement à être heureux, je préfère encore la vie. Et voilà, dans la vie, il y a effectivement des moments difficiles, des moments douloureux, mais justement, si la vie est belle, c'est parce qu'elle n'est pas régulière et il y a des hauts et des bas, et c'est ça que j'aime dans la vie, ce combat au quotidien.
Il y a aussi cette phrase que j'aime bien, on n'est pas dépendant ni indépendant, mais interdépendant des uns des autres.
Mmh, tout à fait, oui, ça fait résonance.
On va retourner sur le voyage et le Cap-Vert. Pourquoi le Cap-Vert ? Donc, tu es accompagnateur dans les Pyrénées, ça on l'a vu, et tu as choisi d'organiser des circuits au Cap-Vert. Pourquoi ? Comment s'est porté ton choix ?
C'est un petit peu le hasard qui m'a amené au Cap-Vert. Je travaillais à l'époque pour une grande agence, un grand Théo. Et en 1999, alors que je travaillais déjà à Madère depuis quelques années, qui est une île portugaise, sachant que je parlais portugais, ils m'ont demandé de monter des circuits au Cap-Vert, chose que j'ai faite. J'ai créé donc des voyages, des randonnées, et je suis littéralement tombé amoureux de ce pays, tant par les paysages que par ce peuple très particulier. Si ce peuple est particulier, c'est surtout finalement par son histoire. Le Cap-Vert a été découvert inhabité en 1462, milieu 15e siècle, et a servi de base au commerce triangulaire. C'est-à-dire que les Noirs qui étaient déportés, qui prenaient les bateaux, les négriers, pour aller vers les Antilles, s'arrêtaient au Cap-Vert. Quelques-uns ont été débarqués, on leur a demandé de mettre en place une économie agricole. Donc les bateaux négriers, les suivants, s'arrêtaient au Cap-Vert, faisaient le plein en eau, en légumes et en viande pour traverser vers les Antilles, vers les Amériques, afin d'éviter que les personnes embarquées aient le scorbut. Donc ces premiers Africains qui ont été débarqués ont été rapidement métissés de force. Ils ont ensuite bien sûr donc connu en premier donc la déportation, le métissage de force, la colonisation. Ensuite il y a toujours malheureusement des sécheresses énormes qui ont engendré des famines. Il y a eu jusqu'en 1948 la dernière famine qui a fait jusqu'à 65% de morts sur l'île principale de Santiago. Et pour échapper à cela, les Portugais leur proposaient jusqu'en 1975, date de l'indépendance, des contrats qu'on pourrait appeler des contrats de néo-esclavage sur les îles de São Tomé, anciennement colonie portugaise, pour travailler dans l'implantation de cacao. Et en plus, les gens essayaient de partir vers les Amériques, ils partaient sur des baleiniers, ils partaient n'importe où pour échapper à la misère de ce si petit pays. Et toutes ces souffrances réunies ont mis en place une saudade, entre guillemets une nostalgie très particulière, très différente de celle qu'il peut y avoir au Portugal. Et ce qui fait un peuple vraiment remarquable, parce que malgré toutes ces souffrances, ils ont toujours la tête haute, le regard lointain, une grande fierté d'eux-mêmes. Et cette saudade qui ressort d'eux, voilà, moi j'aime ça parce que, je sais pas, il y a une certaine magie. Et cette saudade, en fait, elle est souvent traduite par la culture, que ce soit par les écrits, les poèmes et bien sûr par la musique. Alors, tout le monde connaît aujourd'hui César Évora, la diva aux pieds nus qui est vraiment l'ambassadrice du Cap-Vert, qui l'a fait sortir de l'inconnu. Alors elle a pris sa retraite il y a quelques mois, puisqu'elle est malade. Mais il y a d'autres types de musique. Donc elle chante les morna. Les morna, c'est une musique relativement triste. Mais il y a d'autres types de musique au Cap-Vert, beaucoup plus gays, comme le funana, qui est joué avec un accordéon diatonique et un fer raclé avec un couteau. Il y a du batouk, où les femmes tapent sur des pagnes. Voilà. Il y a, en fait, on dit qu'il y a autant de types de musique qu'il y a d'îles.
Et combien d'îles, alors, au Cap-Vert ?
Alors, le Cap-Vert est un tout petit pays. Il fait 5000 km², je te dis grosso modo un département français. 5000 km² divisés en 10 îles, dont 9 sont habitées. Toutes les îles sont volcaniques. Nous avons 3 qui sont des îles assez plates et désertiques avec des plages de sable blanc. Donc l'île de Sal, de Mayo, de Boavista. Les autres îles sont montagneuses, c'est-à-dire presque à 3000 mètres. 2829 mètres sur le pic de Fogo, qui est un volcan actif et qui a explosé la dernière fois en 1995. Il y a même une petite réplique en 2000. Les autres îles, par exemple, comme Saint-Antan, sont sublimissimes, ressemblent un petit peu au niveau du relief à l'île de La Réunion. Donc du volcanisme très érodé par des pluies tropical. Et le Cap Vert, excusez-moi, mais t'es pas vert. le Cap Vert est enfin un pays qui fait partie du Sahel, donc un climat sahélique. Et ils reçoivent quelques pluies, mais malheureusement très très peu, en moyenne 3 jours. Ah oui, j'ai bien dit 3 jours par an, et durant le mois d'août ou septembre. Et le Cap Vert est ensuite vert sur octobre, novembre, qui sont les meilleures périodes pour découvrir ce pays.
Pourquoi les Portugais ont appelé Cap Vert alors si c'est pas vert ?
Alors le Cap Vert, en fait, le pays, l'archipel du Cap Vert se situe au large du Sénégal, 450 km au large du Sénégal, au large de la péninsule du Cap Vert, où se situe Dakar. Voilà. On dit également que le Cap Vert aurait été boisé, découvert des premiers hommes, mais les premiers documents se contredisent, on ne sait pas exactement.
On parle le Wolof aussi au Cap Vert ?
Non, on ne parle absolument pas le Wolof, qui est la langue nationale du Sénégal. On parle deux langues. Il y a la langue nationale, la langue officielle. La langue officielle étant le portugais, mais qui est à peu près parlé, on va dire, qui est parlé couramment par un quart de la population. Mais les gens parlent le créole, ou je devrais dire les créoles de base portugais, puisque les gens venaient essentiellement de la grande côte de Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Donc ils parlaient plus ou moins, entre autres, le mandingue et d'autres langues africaines qui ont été unifiées avec le portugais, et puis ils ont modifié ce portugais pour pas que le colonisateur les comprenne.
Donc tu disais colonie portugaise, mais habitée par les premiers habitants des Cap-Verts sont venus de où ? Sont arrivés en bateau, forcément, j'imagine, mais de quel continent de l'Afrique, mais de où ?
Alors,
et quand ?
Donc ils venaient bien sûr donc d'Afrique, plutôt effectivement ils partaient alors effectivement soit de Gorée, même si très peu de gens sont partis de Gorée.
C'était pendant la période des négriers, mais avant l'île était inhabitée, avant l'esclavagisme ?
Oui, l'île était complètement inhabitée, puisqu'en fait, sur un plan géologique, le Cap Vert est un point chaud, donc c'est-à-dire ce sont des remontées de basalte qui sont sorties de la...
De l'océan.
Il n'y a pas eu donc de dérive du continent comme peut y avoir sur Madagascar.
Et il y a donc, c'est des îles relativement jeunes.
Ce sont des îles très 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 très, très jeunes, oui, effectivement. Donc on a quand même retrouvé quelques présences de passages humains, a priori des pêcheurs qui venaient de la côte, a priori de Mauritanie. Mais on n'a jamais eu de traces vraiment d'habitat.
Thank you.
aujourd'hui, tu y vas sur toi, tu organises des voyages sur cette île qu'est le Cap Vert, qui est une île a priori pas verte, comme tu disais, mais montagneuse.
Tout à fait. Donc, moi, je retourne depuis 13 ans. Chaque année, je vais au Cap Vert une fois, deux fois, des fois trois fois par an. Aussi bien pour mon plaisir, pour retrouver mes amis capverdiens, également pour je crée des voyages un petit peu hors des sentiers battus, vraiment à la rencontre du peuple, et je fais des voyages spécifiques marche à pied, mais pour rencontrer les gens et aussi rencontrer des amis musiciens.
Ok, donc tu as un fil conducteur dans tes voyages, quoi. La musique, parce que tu m'en as parlé, j'ai vu avant avec les yeux qui clignotent, là, tu parlais de Cesora Evora, tu parlais de différents types de musique qu'on pouvait retrouver sur cette île, donc tu mets ça dans tes voyages aussi, la musique?
Oui, tout à fait, c'est vrai que si au départ j'étais attiré par la beauté des paysages, rapidement c'est vers l'humain que je me suis tourné, et l'archipel est un archipel musical, le Cap Vert est vraiment un archipel musical, et passer à côté de la musique, ça serait vraiment passer à côté du Cap Vert. Donc sur mes voyages, on va rencontrer à la fois des luthiers qui ont des renommées internationales, des joueurs de cavaquinho, petite guitare à quatre cordes, des joueurs d'accordéon diatonique pour le funana, des femmes qui font du batouk, et bien sûr de nombreux chanteurs.
Sur quoi est basée l'économie du pays ?
Ah, l'économie, malheureusement, c'est un petit peu compliqué pour eux. Le Cap Vert vit aujourd'hui essentiellement du tourisme et vit surtout de l'aide internationale. Le Cap Vert est le troisième pays par rapport à sa taille ou nombre d'habitants plutôt, par rapport au nombre d'habitants, à recevoir une aide internationale. Voilà. Et le Cap Vert en fait a signé un partenariat spécifique avec l'Union Européenne.
Donc aide internationale, c'est quoi ? C'est une aide financière qui est attribuée aux États, aux régions ou aux habitants directement ?
Non, bien sûr, c'est attribué à l'État qui ensuite a différents projets. Et je suis content de voir qu'en 13 ans, une grande, grande évolution des infrastructures au Cap-Vert. Infrastructures publiques, donc construction de routes, construction d'hôpitaux, construction d'écoles. Il faut savoir que 99,9% des enfants vont à l'école. Et c'est vrai que Amical Cabral, qui était... ça va danser autour de nous. Ambiance de voyage. Il y a quelques tambours de l'Inde autour de nous, des tablas. Donc, je reviens au Cap Vert. Amical Cabral, qui était vraiment le héros, qui est le héros national, qui a mis en place la révolution, surtout intellectuelle. Lui, il souhaitait que les gens y soient indépendants. Indépendants et surtout qu'ils soient cultivés. On le représente toujours avec son livre à la main. Il savait que les gens ne pouvaient être indépendants que s'ils étaient intellectuellement riches.
Aujourd'hui, quand on est né au Cap-Vert, quand on grandit au Cap-Vert, est-ce qu'on a possibilité facilement de quitter son territoire, son île ? Est-ce que c'est facile de sortir ?
Alors c'est vrai qu'une des particularités du Cap-Vert, c'est que le nombre de Cap-Verdiens à l'extérieur est plus important que à l'intérieur. On a environ 500 000 personnes qui habitent sur l'archipel et 700 000, 650 000, 700 000 à l'extérieur, dont la moitié aux États-Unis. Et ensuite, les autres personnes sont réparties sur l'Union européenne, la France bien sûr, le Portugal, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie, mais également un petit peu sur Dakar.
On peut facilement avoir un visa pour sortir ?
Alors, c'était avant très facile pour les Cap-Verdiens de sortir, puisqu'ils avaient une très bonne réputation, en plus ils sont catholiques, ce qui a pas mal facilité les choses. Aujourd'hui, avec Schengen, les accords de Schengen, il est très difficile pour les Cap-Verdiens de sortir. D'ailleurs, il y a eu quelques semaines le concours de Miss Univers, passionnant concours, où Miss Cap-Vert n'a pas pu sortir, puisqu'elle n'a pas eu le droit à un visa. Merci de Schengen.
Alors là, j'ai avec moi... Tu ramenais ce bouquin, c'est le tien ?
Oui, en fait, j'ai sorti ce livre. Donc, c'est un livre photo qui est sorti à l'automne 2005. 2006, on ne sait plus, 2005. Et c'est un recueil de photos qui fait la part belle en fait, aux habitants. Puisque je voulais rendre en fait, un hommage à ce peuple. Donc, on va dire que le début et la fin du livre, on va retrouver des paysages pour... déambuler un petit peu dans l'ambiance capverdienne, puis à l'intérieur c'est du quotidien, donc on va retrouver effectivement les travaux des champs, on va retrouver beaucoup de portraits, de la musique, voilà, du quotidien et l'ambiance même du Cap Vert.
De quoi parlent les textes qu'on voit là ?
Alors en fait le livre est structuré par chapitres, Ce sont des textes que j'ai écrits de manière poétique. D'ailleurs, ça m'a permis d'obtenir le livre, a eu le prix du regard poétique grâce au texte et puis à l'ambiance générale du livre. Les textes parlent, finalement, ils parlent beaucoup de mon ressenti par rapport à ce peuple. Ouais. Ce sont des textes assez personnels. Ils parlent aussi bien des habitants, de l'évolution du tourisme, du travail, du monde de la pêche.
Cap-Vert, l'archipel hors du temps, d'accord. Pourquoi hors du temps ?
Ah, pourquoi hors du temps ? Parce que je ne sais pas, je trouve que quand je suis dans ces îles, le temps a une autre saveur, et une saveur très douce. Les gens savent prendre le temps de vivre, de discuter, de s'asseoir. La morabèze, c'est la manière de vivre, de se poser, de jouer de la musique, de draguer, d'aller boire une bière ensemble ou un petit grog, le rhum national. Et c'est vrai que, pour paraphraser Amadou Mbateba, si nous on a l'heure, eux ils ont le temps.
Ça c'est génial, cette citation. On me l'a dit une fois et depuis j'ai plus de montre. Ça doit faire 10 ans maintenant.
Oui, c'est quand même quelque chose qui est connu et reconnu, et on aime dire ça.
On va finir par une image, choisis-en une dans ton bouquin et tu vas nous la décrire et puis nous lire le texte qui est associé, une image que t'aimes bien, une image qui est une histoire que tu vas pouvoir nous raconter. Tu l'as trouvée ?
Oh oui, je suis pas un garçon sage, j'ai pris 2 images. En fait, j'ai ouvert une page et ce sont 2 images qui se font face. Nous avons à la fois les mains qui... la photo est légendée, elle s'appelle Offrande. Les mains qui reçoivent au creux des mains, dans les pommes, on ne voit que les mains. Hein. Il y a des haricots qui sont vraiment la base de la ketchup, c'est le plat national, la base de tous les repas. Et puis en face de ça, nous avons un petit peu dans la même teinte, couleur très ocre, des pieds, mais des pieds nus, qui sont vraiment incrustés dans la terre, on voit des cailloux, et j'ai intitulé ça Racine. Et en fait, ses pieds et ses mains sont liés, puisque c'est la même personne. Joan, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui des fois j'allais travailler un peu la terre avec lui, et qui est malheureusement qui est parti, qui n'est plus de ce monde.
Bout à bout, tu as passé combien de temps au Cap-Vert ?
Bout à bout, alors c'est vrai que donc, des fois j'y reste 15 jours, des fois 2 mois, des fois 3 mois... Je n'ai plus compté, hein. Je suis moi aussi un peu hors du temps. J'ai bien dû passer 30 ou un peu plus de 30 mois peut-être, environ.
Et donc l'histoire d'amour continue.
L'histoire d'amour continue. Et pour la petite histoire, je n'ai pas d'amoureuse là-bas. Si les filles sont magnifiques, les métis sont plus peu habillés, très sexy.
Qu'est-ce qui se passe alors ?
Et si je les regarde, et j'aime énormément les femmes... J'ose pas, pourtant je pourrais, pourtant elle s'intéresse à moi, mais 30 mois comme ça, sans femme, quelle honte, avec tant de bras tendus vers moi, mais je
c'est
n'ose
parce
pas.
Est-ce qu'il y en a une qui t'attend en France ou même pas ?
Oh, j'ai eu quelques femmes en France, mais non, je suis aujourd'hui célibataire, mais je me refuse en fait à l'amour facile au Cap-Vert. Je crois qu'il y a assez sur le monde et au Cap-Vert.
Il n'y a pas d'amour facile.
Il n'y a pas d'amour facile. Il y a assez de tourisme sexuel et malheureusement, oui, c'est un peu plus grave que ça. Et le tourisme sexuel au Cap-Vert est en train de grossir et on voit de plus en plus de blancs, bien riches, bien gras, avec des jeunes et belles métisses que je comprends. Hein, elles ont besoin de vivre et elles pensent au quotidien à leurs enfants. Mais je n'arrive pas à me faire cette idée de plaisir facile et voilà, d'abuser des gens.
Mais ta démarche est différente. Toi, tu y vas pour l'humanité, pour la rencontre, pour le partage, et tu connais le pays, tu connais ces régions habitées, tu connais des hommes, tu as des amis, tu as créé des réseaux là-bas, ça n'a rien à voir. Pourquoi s'interdire de tomber amoureux ?
Oh, bien sûr que j'ai tout ça, ce que tu décris, mais pourtant je suis aussi un épicurien, j'aime les plaisirs futiles, j'aime l'amour et tous ces plaisirs, mais je pourrais... avec la cachette de la nuit, de l'ombre, me faufiler et m'offrir de belles métisses. Mais voilà, je suis trop respectueux des gens. Et je pense que même si les Blancs possèdent beaucoup d'argent, ils possèdent peu de valeur. Et j'aimerais bien que les autres en fassent autant.
Beaucoup d'argent, mais peu de valeur, on va rester là-dessus. Merci Jean-Marc.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.